de matière un peu flasque, jaillissent parfois des idées de génie, comme le Requiem de Mozart. Inspirés par ce miracle de la nature, des inventeurs se sont mis à rêver des capacités surhumaines que pourrait développer une intelligence artificielle. Cette machine, inventée par l'anglais Alan Turing, est la première preuve incontestable que des engrenages mécaniques peuvent être plus efficaces qu'un cerveau humain pour résoudre un casse-tête. Grâce à elle, les Anglais sont parvenus à décrypter les messages codés de l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'une ribambelle de militaires faisait jusque-là chauffer leur matière grise en vain. On s'est alors mis à imaginer des outils d'un nouveau genre qui pourraient robotiser le travail intellectuel.
La base de l'automatisation, à la limite, peut être considérée que je dois limiter l'effort, et cet effort est un effort physique. Un moulin, à une époque, dans des siècles passés, était considéré comme un processus automatique. Mais, progressivement, on a pu adapter ce type d'approche même au travail immatériel ou au travail intellectuel. Et aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle forme d'automation qu'on appelle, de manière générale, intelligence artificielle.
Depuis sa création officielle, dans les années 1950, l'intelligence artificielle promet d'optimiser nos vies. Conduire les voitures à notre place, mieux éduquer nos enfants, nous suggérer les menus les plus adaptés, établir les meilleurs diagnostics médicaux, ou trouver les mots pour nous remonter le moral.
He says I'm depressed much of the time.
I'm sorry to hear that you're depressed.
Toutes ces promesses régulièrement déçues ont soudainement été ravivées à l'aube des années 2000 grâce au flux de données de l'Internet et à la puissance décuplée des supercalculateurs.
Je travaillais pour Google depuis un bon moment déjà. Et tout à coup, dans le milieu de la technologie, à Google, partout, tout le monde s'est mis à vouloir utiliser l'IA comme réponse à tout. L'IA va guérir le cancer, l'IA va résoudre nos problèmes de transport, d'éducation. Quelqu'un m'a même proposé l'IA pour détecter les génocides. J'ai halluciné. À partir de quelles données? Quels sont les enjeux politiques? Aucune réponse à ça.
Il y a eu la volonté, à un moment, de vouloir numériser tout le réel. C'est-à-dire d'avoir une connaissance intégrale et en temps réel des choses. Il y a quelque chose de démiurgique dans cela, sans que n'ait été pris en compte le fait que quantité de choses échappent à la réduction numérique du réel.
Salut Johnny, il y a un magnifique arc-en-ciel dehors.
Gordon, je programme là.
Tu veux dire que tu transformes la poésie du monde en électrons?
Le développement fulgurant du numérique, qui est indéniable et positif, nous a donné l'impression qu'on allait pouvoir résoudre tous nos problèmes d'humains grâce aux données et aux calculs. Mais c'est tout simplement une illusion.
This is Jeopardy! The IBM Challenge!
Johnny Gilbert, thank you, ladies and gentlemen, and welcome everyone to a very special Jeopardy event.
En 2011, la société IBM, familière des grands coups médiatiques pour vanter les progrès de ses technologies, organise une partie de Jeopardy entre les plus grands champions humains et son nouveau programme informatique. L'intelligence artificielle serait désormais capable de comprendre le langage des humains.
This town is known as Sin City, and its downtown is Glitter Gulch. Watson.
What is Las Vegas?
Correct.
Plus rapide que ses adversaires, Watson gagne à plate couture.
Watson.
What is Halter?
Halter Tom. You got it.
What is South Dakota?
Yes.
What is Marc Jacobs?
Yes.
What is Executor?
Right.
Mais malgré les affirmations des publicitaires d'IBM, Watson était en fait incapable de communiquer avec des humains. Il se résumait essentiellement à un moteur de recherche qui fouillait dans des encyclopédies numériques. Pourtant, Dès le lendemain de sa victoire à Jeopardy, l'entreprise annonce une ambition révolutionnaire. Le développement d'une intelligence artificielle avec laquelle les médecins pourraient dialoguer pour optimiser leur diagnostic et proposer les traitements les plus efficaces. Alors, comment transférer les compétences d'un médecin dans des circuits électroniques ? Pour mettre au point son docteur virtuel, IBM utilise une technique éprouvée de l'informatique, l'IA symbolique.
Ce qu'on appelle l'IA symbolique historiquement, c'est cette idée qu'on va automatiser des tâches en prenant des modèles mentaux humains et en les transformant en programmes. Et en exécutant ces programmes, on automatise donc une tâche cognitive.
IBM embauche une vingtaine de médecins new-yorkais et leur demande de se mettre d'accord sur un schéma de décision parfait qui ressemble à ça. Impatients tous, si la toux perdure depuis moins de 8 semaines, alors prendre la température. Si la température est supérieure à 38,5, alors ausculter au stéthoscope. Si la respiration est crépitante, alors réaliser une radio de thorax. Si la radio révèle un syndrome alvéolaire, alors il s'agit d'une pneumonie. Prescrire des antibiotiques. Dans cet arbre logique qu'on appelle algorithme de décision, toutes les hypothèses sont prises en compte et pour chacune, la meilleure décision est établie, permettant ainsi à tous les médecins du monde de profiter des raisonnements des meilleurs spécialistes. Après 6 années de développement, IBM sort enfin son produit phare, Watson for Oncology, spécialisé dans les traitements du cancer. Bien moins ambitieux que le docteur virtuel annoncé, le logiciel oblige d'abord les médecins à saisir à la main toutes les données sur leurs patients. Surtout, Watson ne propose que des traitements aux standards américains. Et selon les médecins, il se révèle impuissant pour les cas les plus compliqués qui justifieraient pourtant son utilisation. Watson for Oncology n'aura été vendu que dans quelques dizaines d'hôpitaux dans le monde. Et en 2021, les critiques sont telles qu'IBM retire de la vente tous les Watson.
Il y a des limites à ce qu'on est capable d'exprimer verbalement, donc de programmer un ordinateur de manière explicite. Il y a des connaissances, en fait, la plupart des connaissances dans notre cerveau qu'on ne sait pas exprimer verbalement.
La médecine, c'est le monde réel. Le monde réel fait preuve d'une immense diversité. Chaque nouveau cas que vous rencontrez sera différent de façon subtile de tous les cas que vous avez rencontrés précédemment. Et donc les règles que vous avez développées précédemment, il va falloir les adapter pour chaque nouveau cas. Et si vos règles sont rigides, si vos règles c'est un programme rigide, il ne va pas pouvoir s'adapter.
La filière santé d'IBM fait marche arrière toute. Parce qu'il était tellement facile de démontrer que la plupart de leurs affirmations étaient mensongères.
Il y a des compagnies qui ont peut-être exagéré la vitesse à laquelle les choses allaient se développer. C'est un peu dans la nature de la bête. Mais je suis très confiant que c'est inexorable, qu'on va avoir de plus en plus de ces outils en médecine.
Malgré plusieurs milliards d'euros investis par IBM dans un docteur virtuel resté virtuel, les géants du numérique, Google, Amazon, Apple, Microsoft et toujours IBM, rivalisent encore plus que jamais pour mettre la main sur les données médicales du monde entier et les exploiter. Ce que les machines seraient désormais capables d'apprendre toutes seules, grâce à une toute autre technique informatique, le deep learning, ou apprentissage profond.
Il y a eu une avancée majeure des systèmes de deep learning dans le domaine de la reconnaissance d'images lors de la compétition ImageNet.
AlexNet a remporté le concours ImageNet, ce qui a prouvé l'efficacité du deep learning et déclenché une sorte de ruée vers l'or de l'intelligence artificielle.
La compétition ImageNet est un concours de reconnaissance d'images réservé aux programmes informatiques. Alors que les meilleurs d'entre eux se trompaient une fois sur trois depuis plusieurs années, en 2012, une technologie basée sur l'apprentissage des machines fait tomber ce taux à 15%. Avant cette révolution informatique, pour qu'un programme reconnaisse, disons, un visage dans une image, il fallait tout lui expliquer, chercher une forme qui ressemble à un œil, à une bouche, à un nez. Et s'ils étaient agencés dans le bon ordre, l'algorithme concluait qu'il s'agissait probablement d'un visage. Fabriquer un système automatique de visualisation obligeait donc les programmeurs à décrire des milliers d'images sous toutes les coutures, dans un langage compréhensible par une machine. Et ça marchait assez mal.
L'approche symbolique de l'IA classique, c'est une approche où la connaissance est donnée à la machine. Et tout d'un coup, l'apprentissage profond s'est révélé fonctionner beaucoup mieux. Parce qu'on laisse l'ordinateur faire le travail plutôt que nous-mêmes avoir à décider comment on doit traiter l'information.
L'apprentissage profond dérive de la cybernétique, un domaine de recherche où les ingénieurs en informatique aiment à s'inspirer des neurosciences. Avec l'apprentissage profond, les programmeurs ne décrivent plus à la machine à quoi ressemble un visage, elle est censée apprendre toute seule. Le système s'apparente à un grand réseau de connexions qui aurait été inspiré par les neurones de nos cerveaux. Dans ce réseau de neurones artificiels, une multitude de réglages est possible pour intensifier les signaux entre chaque connexion ou au contraire les atténuer, jusqu'à un signal de sortie qui donne la réponse à la question, par exemple, y a-t-il un visage dans l'image ?
Un des avantages des systèmes d'apprentissage profond, c'est qu'ils peuvent travailler directement sur la matière brute qui sort des senseurs. Donc si c'est une caméra, c'est le niveau gris ou les intensités de chaque couleur qui sont mesurées à chaque pixel, et puis on la mettons 1000 par 1000 pixels, et voilà, c'est ce million de nombres qui rentrent dans l'ordinateur.
À l'entrée du système, chaque pixel de l'image envoie un signal dans le réseau plus ou moins intense selon sa luminosité. Ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé consiste à laisser la machine tester des milliards de réglages possibles jusqu'à ce qu'elle donne enfin la réponse attendue par les programmeurs, c'est-à-dire que le signal de sortie « visage détecté » s'allume au maximum. Lorsque cette combinaison est trouvée, les réglages sont verrouillés, l'apprentissage est terminé.
On a juste les paramètres du modèle pour que le modèle finisse par donner les réponses qui sont attendues et qui sont connues.
Ils vont imiter ce que les humains leur ont montré comme exemple.
C'est vraiment fascinant. Les mathématiciens ont désespérément cherché à comprendre pourquoi ça marche. Mais franchement, personne ne comprend vraiment pourquoi le deep learning fonctionne.
Le côté fascinant de ces réseaux de neurones, c'est qu'ils parviennent à discerner une forme générique de ce qu'est l'image d'un visage. Pendant toute la phase d'entraînement de la machine, ce sont en fait des milliers d'images de visage qui sont nécessaires jusqu'à trouver le réglage parfait pour que le système identifie comme visage toutes les configurations de pixels qui correspondent à un visage et uniquement à un visage.
Typiquement, ce qu'on faisait à cette époque-là, c'est qu'on alimentait la machine avec des tas de photos de chats. Elles étaient toutes étiquetées « chats ». Des millions de chats, jusqu'à l'écœurement. Et ensuite, après avoir vu ces tonnes de chats sous tous les angles, la machine était capable de reconnaître, ou plutôt de donner une probabilité qu'une nouvelle image de chat représentait effectivement un chat. Et qu'une image de chien n'était probablement pas un chat.
Chat. Les catalogues dans lesquels ces systèmes apprennent à lire le monde visuel sont des collections de millions d'images divisées en centaines de catégories. On y trouve des chats et des visages, mais également des chouettes, des serpents, des moustiquaires, des montgolfières, des feux rouges, des tailles-crayons, des femmes voilées, des lauréats, des bikinis, des monolithes, du rouge à lèvres, des montres à quartz, des masques à gaz, des ouvre-boîtes, des requins-marteaux, des serpillères à poils longs, des bichons à poils frisés ou des gardes de Buckingham Palace. Ces albums numériques qui servent de données d'entraînement aux machines ont fait faire des progrès fulgurants à la visualisation automatique. Ces systèmes équipent désormais les appareils photo pour faire le point automatiquement sur les visages, les salles de vidéosurveillance, les lecteurs de codes postales ou de plaques d'immatriculation, les identificateurs d'espèces de fleurs ou de races de chiens, et les détecteurs de formes anatomiques indécentes. mais des chercheurs pointilleux de l'Université du Michigan ont testé la performance de ces systèmes lorsque de petites modifications sont apportées à l'aspect ordinaire des choses. Alors que le système reconnaît un vautour sur cette image, lorsqu'elle est inclinée, il voit un orang-outan. Les chercheurs se sont alors intéressés à la reconnaissance des panneaux de circulation par les systèmes des voitures autonomes. Ils ont ajouté quelques autocollants sur un panneau stop. Ce panneau discrètement déguisé a fait dérailler les réseaux de neurones du véhicule qui l'ont confondu avec un panneau de limitation de vitesse. Ces aberrations inopinées expliquent que les systèmes de vision automatique sont encore inopérants pour des applications critiques. Malgré toutes les annonces, dans les hôpitaux où sont testés des lecteurs automatiques d'imagerie médicale, ce n'est pas encore l'intelligence artificielle qui aide les radiologues, mais les radiologues qui supervisent l'intelligence artificielle et continuent de l'entraîner.
Ce sont des systèmes très fragiles parce que ce sont des systèmes qui ne peuvent faire sens que de points qui sont très proches de ce qui a été vu dans les données d'entraînement.
Si votre système a été entraîné sur les données d'une certaine population de patients ou de tel type d'équipement, il ne fonctionnera pas forcément dans un autre contexte. Les humains réfléchissent tout à fait différemment, avec un spectre beaucoup plus large. Ils peuvent penser à des choses qui ne sont pas dans les données d'entraînement. Ils peuvent réfléchir à la manière dont un modèle fonctionne et décider s'ils veulent lui faire confiance ou non, ce que l'IA est incapable de faire.
On a parfois tendance à anthropomorphiser ces systèmes, à se dire, bon, effectivement, on a un système de deep learning qui est capable de prendre une image et de produire une description textuelle de ce qui se passe dans l'image. On pourrait penser que le modèle comprend ce qu'il y a dans l'image. Mais en réalité, la façon dont le modèle va associer une image à du texte, elle est complètement différente de la façon dont nous, en tant qu'humains, on va regarder une image et la décrire par la parole.
À votre avis, est-ce vraiment la grand-mère du petit chaperon rouge dans le lit?
Forcément, la connaissance du monde que ces systèmes vont avoir est incomplète. Il manque l'expérience corporelle, il manque l'expérience visuelle, l'association entre les mots et ce à quoi ils font référence dans le vrai monde. Et je pense que tant qu'on ne réussit pas à incorporer ce côté-là, ces systèmes vont être déficients.
Dans l'esprit humain, le sens des choses prend forme par l'expérience. L'effort de la mâchoire qui croque, les incisives qui transpercent la peau lisse, le jus qui gicle et coule dans le gosier définissent peu à peu ce qu'est une pomme. Alors que pour un système informatique, il s'agit d'une suite de pixels associés à une information textuelle.
Pomme.
Les émotions qui apparaissent à l'exposition d'un message ou d'une image nous révèlent.
How could you use emotion data?
Et pourtant, malgré leur système perceptif rudimentaire, les progrès spectaculaires de la lecture automatique d'images ont fait renaître le fantasme que les machines pourraient développer une sensibilité et même qu'elles pourraient nous aider à déceler les émotions cachées de nos congénères.
We can recognize more than 20 scales of affective states.
L'intelligence artificielle pourra-t-elle enfin nous dire objectivement ce que ressent Mona Lisa face à De Vinci? Monica, dont le regard fit couler l'encre des critiques bouleversées? Ou Jon Snow face à son destin? Alors, comment s'y prend-on pour fabriquer un détecteur automatique d'émotions? La première étape consiste à établir une liste précise d'émotions parmi la diversité tortueuse et infinie de nos états d'âme. Les recherches de Paul Ekman, un ethnologue américain, se sont ainsi révélées très pratiques pour les programmeurs. Après un séjour en Papouasie, le chercheur a conclu que l'humanité partageait 6 émotions universelles, lisibles malgré nous via nos expressions faciales. La joie et la tristesse, le dégoût et la colère, l'étonnement et la peur. Les théories de Paul Ekman ont même inspiré une série télévisée dans laquelle un super détective parvient à identifier les coupables en interprétant leurs micro-expressions. Cette classification, bien que très controversée dans le milieu scientifique, a servi de base à tous les systèmes informatiques de détection des émotions parce qu'elle avait le mérite de la simplicité. Les 6 émotions universelles ayant été strictement déterminées, la deuxième étape consiste à faire trier par des annotateurs humains des milliers de photographies de visage selon ces 6 catégories pour constituer les données d'entraînement des machines. Et enfin, l'apprentissage machine commence jusqu'à ce que le système informatique donne à peu près les mêmes résultats que les annotateurs humains. Bonheur, tristesse, bonheur, surprise, peur, colère, colère, dégoût, dégoût, dégoût. Une fois le meilleur réglage trouvé, ces systèmes deviennent des kits utilisés par les programmeurs du monde entier en tant que détecteurs universels d'émotions.
Le problème avec la détection d'émotions, c'est qu'est-ce qu'on en fait ?
Par exemple, dans le champ du recrutement, depuis 2-3 ans, des cabinets de recrutement utilisent des chatbots pour évaluer les candidats.
If you're an employer,
si vous êtes un employeur, vous pouvez faire passer des entretiens d'embauche par un ordinateur qui vous transmettra ensuite les émotions qu'il a perçues.